Tu es digne de recevoir la louange. Vous l'avez chanté ? Combien tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, l'adoration. Vous ne croyez pas que Dieu est digne de confiance ? Et je plains très sérieusement les gens qui ne font pas confiance à Dieu. Ça vient du fait que les gens ne le connaissent pas. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu. Ils ont fait de belles expériences avec Dieu, mais ils ne lui font pas confiance. On peut être avec quelqu'un et ne pas lui faire confiance. Il y a des hommes qui ne font pas confiance en leur femme. Est-ce que ça peut arriver, ça? Il y a des femmes qui ne font pas confiance en leur mari. Il y a des enfants qui ne font pas confiance à leurs parents. Et ainsi de suite. Pourtant, ils vivent avec, mais ils ne lui font pas confiance. C'est Jean-Baptiste qui a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il était au milieu d'eux et il m'a dit, mais vous ne le connaissez pas. Et il y a plein de textes comme quoi, quand on ne comprend pas une prophétie, une parole de Dieu, eh bien, on suit le Seigneur, mais on le suit avec de la crainte. D'ailleurs, gardez la page d'Ésaïe 41, mais venez avec moi c'est dans l'évangile de Marc, où c'est un verset qui s'est imposé à moi hier et ce matin quand je priais. Dans l'évangile de Marc, il y a un verset qui est très, très, très révélateur. Ils sont les disciples avec Jésus, au centre de la volonté de Dieu. Marc chapitre 10, verset 32. C'est un verset qui explique exactement ce qui se passe souvent dans les églises, dans les chrétiens. Ça ne peut pas être plus au centre de la volonté de Dieu. Bon, Jésus est là, mais encore plus, il est dit, ils montaient, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Vous savez pourquoi, hein? Jésus allait devant eux. Est-ce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu? Mais c'est clair. Ils allaient à Jérusalem, Jésus allait à Jérusalem pour offrir sa vie en sacrifice. Ils sont au centre, pile poil de la volonté de Dieu. Jésus est là, devant, il marche à la suite. Et regardez ce qui est écrit. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. C'est un verset qui nous fait prendre conscience qu'on peut être au centre de la volonté de Dieu et le suivre dans la crainte. Et c'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin, on est dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans la maison du Seigneur, comme c'est le cas ce matin, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et pourtant, plusieurs pourraient se reconnaître dans ce texte, le suivre dans le trouble, dans la crainte, à cause de tout ce qui se passe. Et laissez-moi vous dire que c'est rien. C'est peut-être pas marrant ce que je vous dis, mais laissez-moi vous dire que la colère vient. Et que ça va être de pire en pire. Vous croyez que c'est dramatique ce que je vous dis ou c'est la vérité? C'est la vérité. Si vous avez lu les prophéties et vous savez que ça sera 10 fois, 100 fois pire pour les chrétiens qui ne seront pas prêts et qui vont connaître la tribulation parce qu'ils n'auront pas veillé, parce qu'ils n'auront pas prié, parce qu'ils n'auront pas la force d'échapper à toutes ces choses. Donc nous, un des moyens pour être prêts, c'est de faire confiance en Dieu. Parce que quand on a confiance, il se passe quelque chose. Quand on n'a pas confiance, c'est terrible. Ce matin, je pensais à un exemple. Qu'est-ce que vous préféreriez? Imaginez-vous, bon, vous avez un enfant, vous lui dites, tiens, fais-moi ceci. Tu peux me laver la voiture, s'il te plaît? Par exemple, tiens, Lucas, est-ce que tu pourrais me laver la voiture, s'il te plaît? Le lendemain, papa, la voiture, j'ai pas lavé la voiture. 2 jours après, est-ce que tu pourrais m'arroser les fleurs? Je ne suis pas là, est-ce que tu pourrais m'arroser toutes les fleurs? Oui, papa, oui. Et je reviens, les fleurs, elles n'ont pas été arrosées. Et ainsi de suite, 7 ou 8 fois, voilà. Bon, il n'a pas fait ce que je lui demandais. Qu'est-ce que vous préférez? Que mon fils, 5 ou 6 fois de suite, m'ait désobéi? Ou qu'il vienne me voir comme ça et qu'il me dise, papa, je ne te fais pas confiance. En tant que père, en tant que mère, qu'est-ce que vous préférez? Qui vous ait désobéi plusieurs fois, ou qui vous dise, papa, je ne te fais pas confiance. Qui vous désobéisse. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous savez, ça peut nous arriver d'oublier quelque chose. Ça peut nous arriver de nous tromper. Mais moi, j'aurais vraiment du mal, si ma femme ou un de mes enfants me disait, papa, ou chéri, je ne te fais pas confiance. Et vous savez, on peut faire des choses pour Dieu. On peut chanter des choses vraies, on est en accord, même si on ne le vit pas complètement. Mais mes frères et sœurs, Dieu demande de lui faire confiance, parce qu'il est digne de confiance. Regardez dans Ésaïe 41, ça revient continuellement. Dieu, dans sa bonté, sa patience, sa miséricorde, n'arrête pas de dire. Ésaïe 41, on va lire le verset 13. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Est-ce que Dieu est votre Dieu ? Est-ce que Dieu est votre Père ? Est-ce que vous pouvez dire « Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur. » Bon, vous pouvez dire « Dieu est mon Dieu, Dieu est mon Père. » Qu'est-ce que ce Dieu dit ? Il fortifie notre droite. Qui te dit ? Est-ce que vous avez comme ça dans votre Bible ? « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te dit. » C'est pas moi. C'est Dieu qui vous parle. « Je suis Dieu qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien. » Même s'il pourrait parfois nous ressembler à, vous avez vu la suite, à un vermisseau. Verset 10, « Ne crains rien. » Écoutez-moi mes frères et sœurs, la prédication elle est toute simple ce matin. Mais j'aimerais que vous entendiez Dieu vous parler. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Il l'a promis. Vous dites, mais je ne le sens pas. Et alors, Dieu ne vous a jamais demandé de le sentir. Dieu vous demande de le croire. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et on pourrait prendre les textes, en veux-tu, en voilà, où Dieu dit, c'est Dieu qui le dit. Alors c'est vrai que c'est beau de dire, tu es digne, et puis Dieu voit nos cœurs. Nous on pourrait dire, tiens, mais celui-là il chante ça, mais il prie plus tellement il est découragé, c'est quelle hypocrisie. Peut-être que Dieu pourrait nous le reprocher, je n'en sais rien. Mais quand Dieu, dans sa bonté, nous accorde un don spirituel qui est vraiment en adéquation totale avec la parole de Dieu, c'est parce qu'il veut que vous lui fassiez, que nous lui fassions. Entièrement confiance. Pas confiance un peu, oui. Non, Dieu dit, ne crains rien. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Ne craignez rien. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous prenions la Sainte-Seine dans cet esprit de victoire. Alors, on va lire un autre texte, ça c'est le verset clé, mais je voudrais le compléter avec le proverbe 3, qui résume vraiment très bien le don spirituel. Proverbe chapitre 3, lisons-le, c'est la parole de Dieu. Si vous avez écouté la prophétie, vous allez dire c'est exactement pareil, peut-être dit différemment, mais c'est exactement la même chose. Nous lirons jusqu'au verset 26. Lisons-le, c'est la parole. La parole, elle sort de la bouche de Dieu. Elle ne sort pas de Salomon qui a écrit les proverbes ou d'un pasteur des assemblées de Dieu. Ça sort de la bouche de Dieu. Nous en avions besoin. Proverbe chapitre 3. Mon fils, c'est déjà une grâce que Dieu nous appelle mon fils, non ? Vous ne sentez pas béni que Dieu vous appelle mon fils, ma fille ? Eh oui, c'est comme ça, si Dieu vous croisait dans la rue, vous direz mon fils. Eh ouais. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel un petit peu. Attendez, pardon. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mes frères et sœurs, ça c'est des choses sérieuses. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Toutes tes voies, mes frères et sœurs. Toutes. Je ne sais pas si vous comprenez le texte. Dans tout. Tout, ça veut dire tout. Tout, vous entendez ? Ça, c'est dans le domaine, dans tout le domaine. Je suis poussé à le dire. C'est même dans la vie intime du couple. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal.
Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, les richesses et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors c'est une conjonction de coordination qui indique que tout ce qu'on vient de lire se produira si. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Il y en a qui veulent marcher avec assurance. Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ton pied ne se heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni d'erreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Et si le temps nous le permettait, nous pourrions prendre d'autres textes qui corroborent exactement la même pensée, mais à condition que nous gardions ces choses, pas que nous soyons d'accord. Il a prêché ou il a lu dans les proverbes, bien sûr. Si je vous lisais Victor Hugo ce matin, qu'est-ce que vous diriez? Tiens donc, je vous lirai un poème de Victor Hugo, un beau poème sur la religion. Il en a fait un ou deux. Il a fait des poèmes Victor Hugo sur la religion. Qu'est-ce que vous diriez? C'est bien Victor Hugo. En tant que professeur, tu dois savoir que Victor Hugo, c'est bien. Victor Hugo, il a écrit des choses merveilleuses. On pourrait lire Victor Hugo à partir de dimanche prochain. Non? Comment non? C'est un philosophe français, Madame Lecouni. On dirait, mais c'est ridicule. Vous êtes d'accord? Mais c'est la parole. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiennes la lisent sans lire. Je me souviens d'une sœur qui est venue il y a quelques années. Écoutez bien ce témoignage. C'est une sœur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur. Elle est venue me voir, on habitait encore à la maison à côté. Elle vient, me dit, Monsieur Gros, il faut que je vous parle, je ne suis pas bien, je suis en colère et tout, qu'est-ce qui vous arrive? Alors on va dans mon bureau, elle me dit, voilà, je suis pas du tout content. Bon, son mari est inconverti, est toujours inconverti, lui il est vivant. Elle me dit, je suis en pétard contre mon mari, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon mari, il boit. Ah bon, il boit, qu'est-ce qu'il boit? Eh bien, il boit un verre de vin par repas. Eh bien, j'ai dit, mais moi aussi. Elle me regarde, mais Monsieur Gros, vous buvez du vin? Mais je dis oui. J'ai dit, Madame Untel, est-ce que vous avez lu les épîtres de Paul à Timothée? Elle me dit, mais Monsieur Gros, moi j'ai lu la Bible plusieurs fois. Je connais par cœur les épîtres. Ah bon? Et j'ai dit, ben on va lire dans la première épître de Paul à Timothée. Bon, tiens, on va le faire. Alors on lit, j'ai dit, on va le lire. 1 Timothée, chapitre 5. En plus, elle était contente parce qu'elle m'a dit, mais je les ai lus plusieurs fois, moi, les épîtres. Et bien, j'ai dit, mais c'est bien. Alors, on va lire un texte. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Alors, elle était toute contente. Mais je vous assure, c'est une expérience qui m'a marqué. Parce qu'elle m'a dit, je les ai lus plusieurs fois, les épîtres pastorales. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Elle m'a regardé complètement hébété. Complètement. Elle m'a dit, mais je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Je n'ai jamais fait attention à ce verset. Et c'est révélateur. Pourquoi? Parce que dans le vin rouge, et vous savez que dans le pépin du raisin, vous avez déjà mâché un grain de raisin? Un pépin? Vous avez vu comment c'est amer? C'est le tanin. Dans la peau également aussi, si vous mangez que la peau, vous sentez cette amertume. C'est du tanin et ça fortifie la paroi de l'estomac, de la même manière qu'il y en a dans le tonneau. Vous avez vu qu'il y a des vins qui sont boisés. Vous connaissez, on ne va pas faire une étude sur le vin, mais quand même, il y a des... Mais mes frères et sœurs, Dieu, c'est quand même lui qui a créé le vin. Et il sait très bien ce dont on a besoin. Et si notre estomac est fragile, eh bien le tanin fortifie les parois de l'estomac. Mais c'est, tous les docteurs vous le diront. En plus, c'était le docteur qui avait conseillé à cet homme de boire un verre de vin par repas. Et cette sœur, ça a créé un conflit dans le couple. Pourquoi je vous donne ce témoignage ? Parce qu'on vient de lire que les enseignements, il faut les méditer. Et cette sœur, elle est repartie, elle était complètement désappointée. Parce qu'elle était en conflit avec son mari, alors que son mari faisait qu'obéir à un docteur qui lui avait conseillé de boire un verre de vin par repas. Voyez, mes frères et sœurs, comment on aime le Seigneur, c'est vrai, mais on ne l'écoute pas. Si c'est écrit, c'est écrit. Et quand Dieu dit, c'est Dieu qui dit, ne crains rien. Mes frères et sœurs, ne craignez rien. On peut être bloqué. Je sais vrai qu'il y a des combats. Paul le dit, qu'il a des luttes, comme il dit, combats, lutte au dehors, crainte au dedans. La vie est faite de combats. La vie est faite de luttes, mais ces combats et ces luttes s'aggraveront si nous ne prenons pas la ferme résolution un jour de se lever comme Anne. Vous savez que Anne, pendant des années, et qui pourrait dire que cette femme n'aimait pas Dieu. Cette femme, elle aimait Dieu, elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Elle allait au temple et il est dit que tous les ans, c'était comme ça, tous les ans. Ça veut dire que pendant des années, cette femme, elle a souffert. C'est vrai que Dieu peut permettre des épreuves qui vont nous changer, je le sais. Que Dieu peut permettre qu'une épreuve dure un an, deux ans, trois ans, parce que ça nous travaille. Mais à un moment, je crois qu'il faut s'arrêter. Et à un moment donné, cette femme, elle s'est levée. Il est dit, Anne, elle s'est levée. Elle a été dans le temple, comme elle faisait depuis des années. Et elle a prié, elle a répandu son cœur devant Dieu. Personne ne l'entendait, mais elle priait. Et quand elle s'est relevée, il nous est dit que son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a pris la décision de croire que Dieu est tout-puissant. Oui, elle était stérile. Oui, elle était maltraitée. Oui, elle était méprisée. En plus, dans ce temps-là, déjà, être stérile, c'était une malédiction. Quand Dieu a dit que la femme n'enfanterait pas, c'était une malédiction. Ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve qu'on est maudit. Mais les gens, ils sont comme ça. Dès que vous traversez une épreuve, c'est le Seigneur qui te punit. Moi, j'ai, vous savez, il y a des gens, ils ont encadré le... Cette semaine, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu vas encadrer dans ta nouvelle Bible? J'ai changé de Bible. Tu vas encadrer le psaume 23, ce que des millions de chrétiens ont fait, ou tu vas encadrer un chapitre que personne n'a encadré? Vous savez lequel chapitre? Je suis sûr que personne ne l'a encadré sur la terre. Je suis sûr. C'est le chapitre 3 de Job. Vous le lirez, le chapitre 3. Je ne pense pas que beaucoup l'aient encadré. Et pourtant... Mais quelle affaire! Quelle affaire! Et pourtant, Job, il reste droit dans ses bottes, et quand il est accablé, ben, parce que c'est écrit d'une manière poétique. Vous savez qu'il y a des textes, il y a des livres qui sont écrits de manière poétique. Ça fait que ça atténue énormément la dureté des paroles. Mais c'est comme s'ils avaient dit, mais si tes fils ont péché, mon pauvre Job, mais si tes fils ont péché, c'est que... Ils ont péché! Ils sont morts, c'est que... Ils ont péché! Vous savez, quand, je ne sais pas moi, imaginez-vous, vous enterrez tous vos enfants et vous avez vos amis qui viennent vous dire, mais mon pauvre, si t'en es là, c'est ta faute. Et pendant des mois. Et Job a pu dire, même si Dieu me tuait, je ne cesserai d'espérer en lui. Et c'est un commandement biblique. Espère toujours en ton Dieu. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est une parole du Seigneur. Et certains d'entre vous, si vous voulez sortir du trouble, si vous voulez sortir de la crainte, si vous voulez sortir de la peur du lendemain, vous devez prendre cette parole de Dieu avec votre foi ce matin et dire, tu me parles, ce n'est pas normal que j'ai tout le temps peur du lendemain, que j'ai tout le temps peur pour mes enfants. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui nous protège. Cette semaine, il s'est passé, vous avez vu, des attentats, il y en a toutes les semaines. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sousse? Vous avez vu? Est-ce que vous auriez pu être à Sousse dans un transat en train de... Est-ce que c'est autorisé de prendre quelques jours de vacances et d'aller se reposer dans un hôtel? Est-ce qu'on peut le faire? Mais bien sûr. Est-ce que vous auriez pu vous trouver là? Vous auriez pu vous y retrouver ? Ben oui. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Soyons sérieux, parce que c'est ça la vie. Dieu aurait pu vous garder ? Est-ce que Dieu peut garder quelqu'un ? Est-ce que Dieu aurait pu vous reprendre ? Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu que voilà, le tel jour de la semaine, du mois de juin, est-ce que ça peut arriver ? Qu'est-ce qu'on aurait dit si un chrétien s'était retrouvé à Sousse dans cet hôtel, paf, il a pris une balle dans la poitrine, il est décédé. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Mais on aurait tout entendu. Moi, quand j'ai fait l'AVC, j'ai tout entendu. Ah ben ça lui a fait du bien. Ouais. Il avait besoin de prendre une bonne leçon. J'ai tout entendu, mais vous m'êtes égal en plus. Parce que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Et que Dieu ne permet que ce qu'il veut dans notre vie. Vous croyez que Dieu vous aime ? Vous croyez que Dieu contrôle votre vie ? Vous croyez que Dieu sait le jour où il va vous reprendre ? Mais, mes frères et sœurs, il faut lui faire confiance. Pourquoi il dit, je te dis, ne crains rien, rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Mais mes frères et sœurs, c'est ça le culte qui plaît à Dieu. Le culte qui plaît à Dieu, ce n'est pas une réunion le dimanche matin de 9h30 à 11h30. Le culte qui plaît à Dieu, c'est que toute la journée et toute la nuit, je peux dire, Seigneur, je ne crains rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, mais on en aura des épreuves. Vous en aurez des épreuves. Des bénédictions, vous en aurez. Mais dans les épreuves et dans les bénédictions, apprendre à dire, je ne crains rien. Ma vie est entre les mains de Dieu. Vous relirez le proverbe chapitre 3, et c'est comme ça qu'on peut marcher avec assurance. Bien sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas être insensé. On va pas, ah bon, je risque rien. Oh, mais je peux prendre les virages à 100 à l'heure. C'est ça, mais il y a des gens qui l'ont fait. Il y a dernièrement, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit que dans une église aux États-Unis, une église évangélique, il y a un pasteur qui est mort parce qu'il a pris un serpent et il dit voilà, ils marcheront sur des serpents, etc. Et ils ne risqueront rien, etc. Ils ont pris des serpents et ils sont morts. Mais c'est grave, mes frères et sœurs. Ça vous montre combien les gens sont insensés. Et je crois que quand on marche avec Dieu, Dieu nous protège. Mais il y a des lois. Il y a des lois physiques, il y a des lois physiologiques, il y a les lois de la gravitation. S'il est écrit dans un virage 60, eh bien, tombez à 60. Et c'est vrai qu'il est écrit que si nous ne veillons pas, nous serons flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez ce qui s'est passé ? Je vous le dis parce que je pense que c'est bien que vous l'entendiez. À Charleston, vous savez ce qui s'est passé. Donc hier, il y a le président des États-Unis qui a fait un discours à la chaire où le pasteur prêchait et il a chanté Amazing Grace. Vous l'avez vu peut-être à la télévision. Je peux vous dire que dans cette semaine qui va venir, sur plein de sites chrétiens, vous le verrez, on va dire que l'antéchrist, c'est Obama. Vous le verrez. En plus, le même jour, les 50 États des États-Unis ont voté la loi autorisant le mariage gay. Et je peux vous dire, parce que vous savez, quand on connaît un peu, il est dit que l'antéchrist cherchera à changer les temps et les lois. Et croyez-moi, avec ce qui s'est passé hier aux États-Unis, hier ou avant-hier ? Avant-hier. Laissez-moi vous dire que sur plein de sites, on va nous dire que l'antéchrist, c'est Obama, puisqu'il a été jusqu'à s'asseoir dans la maison de Dieu et a même chanté un cantique en provoquant des lois abominables. Mais en plus, ça tient debout quelque part. Mais laissez-moi vous dire que l'antéchrist ne viendra pas des États-Unis. Si vous avez lu le livre de Daniel, il viendra de l'Europe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les gens sont emportés et flottants à tout vent de doctrine. Mais si on ne sait pas tout, ce n'est pas grave. Ce que je vous dis, c'est ce qui va arriver. Ce sont des choses qui vont se présenter et les gens vont à tour de bras dire que M. Obama, c'est l'antéchrist. Mais vous le verrez. Mes frères et sœurs, qu'on comprenne ces choses, qu'on ne les comprenne pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous ayons confiance en Dieu. Il règne au siècle des siècles. Il règne sur tout. C'est pour ça qu'on peut l'appeler le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il sait tout. Il connaît tout. Il connaît tous les êtres humains de la terre. Tous les gens qui sont au ciel. Est-ce que Jésus connaît les prénoms des gens qui sont au ciel ? Est-ce que Jésus connaît les prénoms de tous les gens qui sont en enfer? Oui, il connaît tout. Mes frères et sœurs, il faut que nous prenions cette victoire. Ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a demandé de vous rappeler. Et parfois, il peut s'avérer que je me dois d'être sévère, non pas parce que j'ai envie d'être sévère, mais parce que je sens dans mon esprit que le Seigneur, il veut pressuriser certains pour que nous prenions cette décision de dire, mais c'est vrai, il sait tout. Il sait comment toucher mon enfant. Quand Dieu dit, ne crains pas, crois seulement, il faut le suivre. Vous vous rappelez quand le Jaïrus a eu sa fille malade? Vous vous rappelez, c'était terrible. C'était le chef d'une synagogue, c'était un responsable religieux. Et que l'on soit responsable religieux ou simple chrétien, on a tous besoin de Jésus. Et il a appris que Jésus passait dans le village, il est parti à sa rencontre, il a dit, Seigneur, viens vite, ma fille est à l'extrémité, vite, 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 vite. Jésus l'accompagne, voilà qu'entre-temps, il y a une femme qui arrive avec la perte de sang, vous le savez, ça a pris un temps fou, et au moment où Jésus avait fini de s'occuper de la femme à la perte de sang, voilà que il y a des amis de la synagogue qui arrivent, et qui lui disent, écoute, c'est pas la peine que t'importunes Jésus, ta fille, elle est morte. Ça a dû être terrible. Et Jésus, sans tenir compte de ses paroles, vous savez, le Seigneur en parle, ça ne doit pas l'affoler beaucoup nos paroles. Sans tenir compte de ses paroles, dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous entendiez cette parole, non pas comme venant de votre pasteur, mais comme venant véritablement de Dieu qui te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Ta fille, elle est peut-être morte spirituellement, ta fille, elle fait peut-être, elle s'éloigne de Dieu. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait des enfants qui s'éloignent de Dieu? Peut-être que vous dites, mais moi ça fait 10 ans que je prie pour mon fils, il a fait que non seulement il s'approche, mais il s'éloigne. Il s'approche pas, mais il s'éloigne. Non mais franchement, j'arrête de prier si c'est ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Mais je voudrais que vous le répétiez en boucle jusqu'à midi. Ne crains pas, crois seulement. C'est la parole que Dieu voulait dire ce matin dans cette église, qu'il veut dire. Le don spirituel est catégorique. Si vous ne lui faites pas confiance, vous ne le connaîtrez pas, le Seigneur. Et il y a des textes qui l'expriment bien. Regardez, c'est dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul fait des reproches sévères, ce sont des chrétiens. Mais certains ont décroché. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. C'est un verset qui est très fort, car même si on est sauvé, on peut se perdre de nouveau. Et ce verset l'indique bien. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. C'est triste d'en arriver là. Mais c'est parce qu'on n'a pas pris à cœur ces choses. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Vous y êtes, mes frères et sœurs. C'est important, ces choses. C'est important. Moi, je suis malheureux de voir tant de chrétiens qui ont peur. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même. Ça veut dire, mais réfléchissez. Réfléchissez. Comme il est convenable. Et ne péchez pas. Alors, pourquoi? Car quelques-uns... Vous avez vu ce qui est écrit? Ne connaissent pas Dieu. Il parle des chrétiens, ouais, c'est clair. Je le dis à votre honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les personnes qui excusent le péché, il y en a des chrétiens qui excusent le péché. Alors entre commettre un péché, dire « Ah, je me suis trompé », hier soir avec ma femme, on parlait des mots vulgaires et des mots grossiers. On parlait à une chrétienne qui était là, qui nous posait des questions à la maison, et... involontairement, j'ai dit un mot, je pensais que je pouvais le dire, j'ai pas fait gaffe, et je me suis rendu compte que c'était un mot grossier. Ça fait 35 ans que je n'avais pas dit un mot grossier. Mais j'en ai été malade. Je sais pas si ça vous est arrivé parfois de dire un mot que vous n'auriez pas dû dire, ça vous est déjà arrivé? Franchement, j'en avais honte, mais j'avais honte. En plus, je l'ai dit devant ma femme et devant cette jeune chrétienne. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, le péché, ça devrait quand même nous faire peur. Et Paul dit aux chrétiens, je vous le dis, il y a des chrétiens dans l'église de Corinthe qui ne connaissent pas Dieu. La preuve, ils excusent le péché. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et quand on commence à excuser le péché, je me demande où est la véritable connaissance de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne croit pas en Dieu, je dis de connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu, il ne peut pas faire autrement que de se confier en Dieu. Et ça se développe, la confiance. Moi j'ai une confiance aveugle à ma femme. Aveugle. Non, mais quand on connaît bien quelqu'un, moi j'ai confiance au conseil d'administration, ici. Et voilà, par exemple, j'ai vraiment confiance. Comment on travaille dans le conseil? J'ai vraiment confiance. Alors, vous vous rendez compte, on peut arriver, quand on connaît quelqu'un, ça fait 17 ans, tiens, aujourd'hui que j'arrive, que je suis arrivé, c'était le 28 juin 98. Au bout d'un moment, on connaît les gens, on peut faire confiance, oui ou non? Comment ça se fait qu'on ne fasse pas confiance à Dieu? Comment ça se fait? C'est qu'on ne le connaît pas. Oui ou non? Quand vous connaissez quelqu'un, vous savez si vous pouvez lui faire confiance. Moi, je me souviens, un frère de l'église me donne un papier. Il me dit, est-ce que vous pourrez le donner demain à la pastorale? Je lui dis, ben oui. Et Nathanaël, non, ne lui faites pas confiance. Il va oublier. Il me connaissait, Nathanaël. Il me connaissait bien. Et il avait raison. Il avait raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas me faire confiance. Mais vous comprenez, quand on connaît quelqu'un, mais mes frères et sœurs, sincèrement, je sais que Dieu regarde et que Dieu, il est, je ne peux pas me mettre à la place du Seigneur, c'est impossible pour juger la façon dont quelqu'un chante, la façon dont quelqu'un réagit, même si quelqu'un parle mal. Anne, elle va dire, mais c'est ma souffrance qui m'a fait parler comme ça. Regardez Job, il va le dire, mais c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler comme ça. Vous savez, des fois, quand on souffre, ben, on n'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Donc nous, on peut juger. Mais mon frère, ma sœur, quand Dieu dit, dans sa bonté, parce que c'est la fin des temps, parce que cela nous a été rappelé, que votre cœur ne se trouble point. Ne vous troublez pas, ça va dégénérer, ça va s'aggraver. Aux États-Unis, avec ce qu'ils ont fait, je peux vous dire jeudi, laissez-moi vous dire que déjà ça va mal, mais c'est grave. Au niveau national, tous les États ont voté cette affaire. C'est une abomination cette affaire, vous pouvez dire, mais non. Écoutez-moi, c'est une abomination. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. Mais nous ne sommes pas des enfants de colère. Alléluia. Nous sommes des enfants de grâce. Nous sommes dans la miséricorde de Dieu. Le jugement ne nous atteindra pas. Gloire à Dieu. Mais vous le croyez, ça? Que vous êtes épargnés du jugement? Est-ce que vous le croyez? Mes frères et sœurs, on devrait, je ne suis pas trop pour, mais on devrait presque sauter de joie. Nous ne connaîtrons pas le jugement. Mais celui qui n'accepte pas Jésus, la colère de Dieu repose sur lui. Et si vous n'êtes pas converti, moi je ne prie pas pour que vous vous convertissiez. Convertissez-vous. Une fois à la fin du culte, je me rappelle, j'avais été repris par un gars qui priait pour moi, monsieur Hugo, pour que je vous convertisse. J'ai dit oui. Puis, non, je ne prierai pas. Non, j'ai dit. Je ne prierai pas pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Convertissez-vous. Il me dit quand? Maintenant. On a été à côté. Je ne sais pas, tu étais? Et le gars, il a pleuré. Et je peux vous dire qu'il a mis sa vie en règle. 2 mois après, il était marié. Il a pris le baptême. Et voilà, et ils sont en règle, tous les deux. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on est dans le sentimental. On est là, dans l'émotion. Et si vous n'êtes pas converti, convertissez-vous. Bien sûr, comme vous dire, oh, tu as fait des progrès, tu es là tous les dimanches à l'église. C'est bien quand même. Hein? C'est bien. Non, c'est pas bien. Convertissez-vous. Parce que quand l'église sera enlevée, vous ne pourrez pas dire que vous ne l'aviez pas entendu. Et voyez combien des fois on est, parce que ce sont nos enfants, parce qu'on est maladroit, c'est pas forcément méchant, mais on empêche les gens de se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Il n'est pas dit, soyez gentils pendant quelque temps, venez à l'église et puis on verra. Convertissez-vous. Repentez-vous. Quand Paul dit aux chrétiens de Corinthe, mais je le dis à votre honte. Mais il y en a plein parmi vous, quelques-uns, qui ne connaissent pas Dieu. Quand on connaît Dieu, on se confie en lui. Regardez avec moi dans le psaume, c'est le psaume 9, verset 11. C'est un verset extrêmement important. Bien sûr qu'on peut le lire vite, mais en vérité, il exprime quelque chose de profond. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom, qu'est-ce qu'ils font? Ils se confient en toi. Pas dit qu'ils prient, bien sûr qu'ils prient. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Quand vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. Si vous le connaissez, vous lui ferez confiance. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Quand Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi, ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu qui te fortifie, que mille tombent à ton côté, c'est où ça tient? Cinquième psaume, que mille à ton côté, 91, c'est bien. C'est le psaume qui corrobore ce qu'on a lu dans le proverbe 3. Vous connaissez le psaume 91? Hein? On peut le lire, mais on peut le lire. Je pense que ce n'est pas un péché de le lire. Non? On peut le lire? On n'a pas trop lu de texte? Non? On n'en a pas trop lu? Comme un jour, quelqu'un m'a dit, on a lu beaucoup ce matin. Eh bien, ouais, dans une église, moi je trouve que c'est un peu normal. Psaume 91, verset 1er. Mais regardez, mes frères et sœurs, mais c'est adressé pas à ceux qui vont à l'église le dimanche matin. C'est un psaume qui est adressé à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est quelqu'un qui obéit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour et la nuit. Il a de l'assurance, pourquoi? Parce qu'il obéit tout le temps. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Qu'est-ce que vous lui dites au Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, oui, t'es mon refuge? Même si je vais en vacances en Tunisie ou là où il y aura le prochain attentat, je crois que tu me gardes. Tant que Dieu a besoin de nous, il nous garde. Bon, vous savez, quand il y a eu les attentats à Madrid, vous savez qu'il y a eu 3 bus qui avaient été plastiqués. Vous rappelez, ça fait combien? Ça fait 10 ans maintenant, peut-être. Vous rappelez? Et il y a 2 bus qui ont explosé et un troisième qui n'a pas explosé. Moi, j'ai lu les rapports d'enquête, enfin les rapports là, ce qu'ils ont dit à la télévision. Ils n'ont jamais pu expliquer pourquoi le troisième bus n'a jamais pu exploser. Ils n'ont pas pu l'expliquer. Mais moi, je vais vous dire, moi, je le sais. Moi, je suis sûr et certain que dans ce bus, il y avait un chrétien dont Dieu avait besoin. Ou quelqu'un qui allait se convertir. Est-ce que c'est écrit que les anges sont des serviteurs de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Imaginez-vous, il y a votre fils dans ce bus. Il n'est pas encore converti. Mais vous priez et vous croyez que de tout votre cœur que Dieu va le sauver. Est-ce que vous pensez franchement que Dieu peut empêcher que le bus explose? Ils n'ont jamais su expliquer. Regardez si ça vous agrée. Ils n'ont jamais pu expliquer. Ce n'était pas possible. Il aurait dû exploser. Eh bien, moi, je suis sûr que dedans, il y avait ce cas de figure où quelqu'un dont Dieu avait besoin ou quelqu'un que Dieu utilisait. Pourquoi? Ben parce que, on va le lire, mes frères et sœurs. C'est important. Mais qu'est-ce que vous lui dites, vous, au Seigneur? Est-ce que vous pouvez lui dire mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je prie? C'est ça que vous avez écrit? Mon Dieu, je prie, je te prie tous les matins. Non? Parce que prier tous les matins, si c'est pendant 23 heures, c'est pour vivre dans la crainte, arrêtez de prier, c'est pas la peine. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Elle n'est pas belle à l'image? Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voilà comment Dieu image son refuge. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Pas parler d'épreuves, hein? Des malheurs. Une épreuve, c'est pas grave, ça peut arriver. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder le dimanche. Pardon. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et je voudrais, mes frères et sœurs, donner un autre verset, parce que vraiment je l'ai eu à cœur hier quand j'ai prié. Je pense que ça s'adresse à une femme. Parce que c'est dans le Proverbe 33. Le Proverbe 31, je pense qu'une femme a besoin, elle va être délivrée par ce verset. Vous connaissez le Proverbe 33, il est parlé de la... Le Proverbe 31, il est parlé de la femme vertueuse. Donc il nous est indiqué tout ce qu'elle est capable de faire. Parce qu'elle est vertueuse, et voilà, elle aime servir les autres, elle aime faire pour les autres. J'espère que c'est le cas de beaucoup de sœurs. Vous aimez servir. Servir les autres, les membres de votre famille. Est-ce que vous aimez servir? Ou est-ce que vous aimez qu'on vous serve? Donc, tout le proverbe parle de la bénédiction qui repose sur le travail de cette femme. Mais, au verset 25, il est précisé quelque chose de spirituel. Elle est revêtue de force et de gloire. Ça, c'est spirituel. Il y a quelque chose de spirituel qui l'habille. Et regardez ce qui est dit après. Elle se rit de l'avenir. Et au verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté vaine, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et vous savez, j'ai failli faire toute ma prédication sur ce verset parce que j'étais poussé dans mon esprit à prendre ce verset. Je crois qu'il y a une femme dans l'église qui a besoin d'une délivrance, d'une victoire, de vivre vraiment cette affaire. Elle se rit de l'avenir. Vous savez ça? Mais quand quelqu'un n'a pas peur du lendemain, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il fait le beau ou il montre à Dieu qu'il a confiance en lui? Mais c'est ça. Alors c'est vrai que moi je me suis réjoui de chanter tous les cantiques, tu es digne de recevoir la louange. Mais oui, il est digne. Mais on peut le louer parce qu'il vous gardera. Et il vous gardera pour toujours. Que 1000 tombent à votre côté. Mais vous le croyez ça ou c'est de la poésie? Est-ce que vous le croyez vraiment? Mes frères et sœurs, Dieu vous a gardé avant que vous vous convertissiez. Les anges vous ont gardé avant que vous ne vous convertissiez. Vous le croyez ça? Alors, si les anges vous ont gardé avant que vous ne convertissiez, vous ne croyez pas que Dieu peut vous garder maintenant que vous êtes un de ses enfants? Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Mes frères, il vous faut le croire, ça. Mais moi, je ne les vois pas, les anges. Des fois, vous voyez, les gens, mais les chrétiens réagissent comme ça. On ne les voit pas, les anges. Quand quelqu'un meurt, on ne voit pas son âme si elle remonte à Dieu. Mais moi, je pense que si c'est écrit, il vaut mieux le croire. Vous le croyez que quand quelqu'un part, son âme va ou au ciel, au paradis, ou à l'enfer? Vous le croyez ça? C'est écrit. Il vaudrait mieux le prendre au sérieux. Il n'y a pas besoin de voir l'invisible. Si Dieu a créé l'invisible, ben c'est pour pas qu'on le voit. Moi je sais pas. Vous êtes d'accord? Si Dieu a créé le visible, c'est parce qu'il faut qu'on le voit. Et si Dieu a créé l'invisible, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on le voit. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un diplôme pour le comprendre? Mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il ordonnera à ses anges de te garder. Quand Dieu dit qu'il nous garde, il nous gardera. Quand le Seigneur s'applique à nous dire dans le sermon sur la montagne, mais n'ayez pas peur du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Mais mes frères et sœurs, c'est ça le culte qui plaît à Dieu. On va partir tout à l'heure, on va se séparer. Peut-être on reviendra pour la réunion d'évangélisation parce qu'on veut accueillir des nouveaux. Mais mes frères et sœurs, quel que soit votre programme, quel que soit votre emploi du temps, que vous vous retrouviez demain ou que vous vous retrouviez au travail ou en Tunisie en train de vous détendre, mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Moi j'ai vu un chrétien qui ne voulait pas prendre l'avion. Il ne voulait pas prendre l'avion parce qu'il avait peur de l'avion. Et comme il habitait en Guadeloupe, il restait en France. Et un jour, je lui ai dit, mes frères, il vous faut prendre une victoire. Il vous faut prendre une victoire. Mais Dieu vous garde en avion. Est-ce que Dieu nous garde partout? Et il est revenu en septembre, il me dit, monsieur Go, j'ai dormi dans l'avion tout le long. Il me dit que j'étais bête. Mes frères et sœurs, que vous soyez en avion, que vous soyez là, est-ce que la terre pourrait s'ouvrir si Dieu le voulait là? Eh oui. Il peut tout. Tout. Et il nous garde si nous sommes sous son sang précieux. On va prendre la Sainte-Seine, mes frères et sœurs. Mais je reviens à ma sœur, à qui je dois dire, à qui Dieu doit te dire, ne crains pas l'avenir, ris-toi de l'avenir. Vous entendez, mes sœurs? C'est peut-être pour des frères aussi, mais je l'ai reçu vraiment hier matin pour une sœur. Il y a une sœur qui doit entendre ce matin cette parole de Dieu que si tu crains l'Éternel, c'est-à-dire si tu respectes tout ce qui est écrit, tu peux te rire de l'avenir. Parce que Dieu jalonnera tous tes pas. Tous tes pas. Vous entendez? Dieu vous gardera à tel point qu'il est précisé qu'il nous gardera non seulement ici-bas, mais qu'il sera notre Père pour l'éternité. Donc ça vaut la peine de lui faire confiance tout le temps quand même. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Vous êtes d'accord? Et on est sous le regard de Dieu. Dieu regarde à ton cœur. Vous venez d'entendre des versets. Vous avez entendu une prophétie qui ne peuvent pas être plus claires. Dieu te dit, ne crains rien. Je ne sais pas si le docteur vous a donné une mauvaise nouvelle, si vos enfants se sont éloignés de Dieu, je n'en sais rien. Si votre mari est récalcitrant, je n'en sais rien. Mais Dieu te dit, ne crains rien. Je le répète parce que je dois le faire. Je vous le dis, mon frère, ma sœur, je vous le dis de la part du Seigneur. Que ton cœur ne se trouble pas. Ris-toi de l'avenir. Vous allez voir des choses graves, sévères, aux États-Unis, en Europe, on va voir des choses terribles. Ça ne veut pas dire qu'il faut se moquer des gens. Mais n'ayez pas peur, parce que le Seigneur va revenir. Il prendra tous les enfants de Dieu, fidèles, attachés à lui. Parce que les gens qui ont confiance, eh bien, ils veillent. Les gens qui ont confiance, ils prient. Pourquoi les gens ne prient plus? Pourquoi les gens ne veillent plus? Pourquoi les gens sont rétrogrades? Pourquoi les gens divorcent? Parce que les gens n'ont pas confiance. Quand tu as confiance, tu ne t'éloignes pas de quelqu'un qui t'a confiance. Tu ne t'en éloignes pas. Pourquoi les gens rétrogradent? Eh bien, parce qu'ils s'éloignent de Dieu. Comme dit Paul aux Corinthiens, mais je le dis à votre honte. Il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est clair qu'ils vont décrocher. Feras-tu partie de ceux de celles qui vont se rire de l'avenir? Mon frère, ma soeur, prendre le pain et le vin, ça doit être une bénédiction. Ça doit être une délivrance, comme ce frère, ce Guadeloupéen, qui ne pouvait plus repartir chez lui parce qu'il avait peur. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur du lendemain. N'aie peur de personne. Ne crains rien. Et levez-vous, mes frères et sœurs, vous qui allez prendre le pain et le vin, je vais prier, mais levez-vous à votre place. Dans cet esprit de victoire, dans cet esprit de délivrance, oui, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, tes anges me protègent. Mon Dieu, merci pour les anges qui me protègent. Je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais de temps en temps. Seigneur, merci pour les anges. Eh oui. Vous avez des anges, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez des anges. Depuis que vous êtes sorti du sein de votre mère, des anges vous ont protégé. Alléluia. Il ordonnera à ses anges. Les ordres de Dieu, croyez-moi, ils sont tous exécutés. Notre Père, jamais nous ne te remercierons assez, jamais, pour toutes tes promesses, pour tous tes avertissements, pour toutes les fois où tu as été sévère, pour toutes les fois où tu as été bon, pour toutes les fois où tu nous as fait des reproches. Merci pour toutes les fois où tu as voulu nous parler. Et si du haut des cieux, tu rappelles aux hommes, aujourd'hui, dans cette église, ne crains rien, merci Seigneur, parce que nous savons que tu prendras soin. Et nous te remercions pour tous nos enfants, pour toutes nos familles, pour tous les gens pour qui nous prions, que tu vas faire entrer dans le royaume, comme la fille de Jaïrus, que tu as ressuscité. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui peut changer la mort, qui peut changer le deuil. Tu peux changer, Seigneur, le deuil en allégresse, oui. Merci, et que ce pain et ce vin nous rappellent ta victoire au calvaire. Seigneur, aide-nous à prendre ce pain et ce vin dans une entière reconnaissance. Oui, tu es digne de régner, tu es digne de recevoir la louange, mais Seigneur, tu es digne de confiance, c'est sûr. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.